Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse pour pendant le temps que vous allez écouter ce message. Nous allons commencer par la prière. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, pour la grâce que tu nous donnes d'être à l'écoute de ta parole. Ta parole est source de vie, ta parole est source de joie, ta parole est source d'épanouissement. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous aides pendant que nous serons en train de l'écouter, mais aussi de la transmettre. Bénis et prends au contrôle tous ces instants, afin que ta parole atteigne nos cœurs, qu'elle nous touche, qu'elle nous instruise, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous avertisse, qu'elle nous corrige, pour que nous sachions comment nous tenir dans ce monde où nous sommes confrontés à plusieurs défis. Nous te prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Notre lecture de ce jour, c'est Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous commençons la lecture au verset 4 et nous allons l'achever au verset 24. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Il écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et les signes qu'il accomplissait. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent des mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit, parole du Seigneur. » Le thème de notre méditation, c'est la puissance de l'Évangile plus grande que la magie, plus grande que l'occultisme. La puissance de l'Évangile plus grande que la magie, plus grande que l'occultisme. Nous vivons une époque particulièrement difficile où il n'y a peut-être pas de magiciens comme ceux qu'on voyait au 1er siècle ou dans notre contexte il y a une vingtaine d'années. Mais nous vivons un autre phénomène, le phénomène de l'occultisme qui gagne du terrain dans nos milieux aujourd'hui. Et beaucoup de gens, pour avoir du succès, pour avoir une certaine gloire, pour avoir une certaine position, pour avoir de l'argent. Il y en a qui versent trop facilement vers l'occultisme aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas le sujet de ce jour, mais je voudrais parler de ce qui s'est passé dans l'histoire de la transmission de l'évangile en Samarie, qui n'est pas différent de ce que notre époque nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je voudrais introduire en disant que dans Romains chapitre 1, verset 16, il y a un verset impressionnant qui dit: Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et puis du grec. Cette affirmation paulinienne de la puissance de l'évangile, c'est cela que je vais essayer de démontrer dans ce récit de Actes 8, versets 4 à 24 que je venais de lire. Notre message va être circonscrit autour de trois points principaux. Le premier point, c'est une joie indicible dans une ville sous la possession du diable. Deuxième point, ce sera comment la ville s'est retrouvée dans cette triste posture. Et j'ai terminé par dire, quand le Christ est annoncé, les comptes à rebours commencent. Alors, une joie indicible dans une ville sous la possession du diable. Selon l'agenda que Dieu lui-même avait déjà fixé, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, il est dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire qu'il y a une certaine progression sur le plan géographique que devait suivre la transmission de l'Évangile. Ça commence à Jérusalem, ça atteint toute la Judée, et après la Judée, ça sort, l'Évangile sort des frontières juives pour pénétrer le monde païen par la Samarie et puis enfin les extrémités de la terre. Donc, l'évangile qui commence à être annoncé à Jérusalem va aller en progressant jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, le texte que nous avons lu nous montre effectivement que l'évangile pénètre en Samarie. Nous sommes ici sur une terre païenne. Mais cela se fait dans une double ambiance. Les trois premiers versets nous montrent que les croyants avaient été chassés, expulsés, ou alors tout simplement avaient été persécutés à Jérusalem. Et dans leur dispersion, ils vont aller en annonçant ou en proclamant la bonne nouvelle. Philippe, qui est en fait le personnage important dans ce récit, c'est un diacre. Il est parmi les sept diacres dont on a vu, en fait, comment l'élection s'est passée dans Actes chapitre 6, mais qui, différemment des autres, va servir autrement que les autres cinq ne vont servir, parce qu'il y a Étienne, il y a aussi Philippe qui vont servir différemment. Philippe ici est évangéliste. Rempli du Saint-Esprit, il fait œuvre d'un évangéliste qui va proclamer le Christ. Et c'est dans cette dispersion, dans cette fuite de Jérusalem, qu'il va aller effectivement proclamer la bonne nouvelle. Il est écrit que la population, lorsqu'il commence à annoncer la bonne nouvelle, la population va se montrer tout entière très attentive à ses paroles. Pourquoi? Pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que ils entendaient le message qu'il était en train de proclamer. Mais deuxième raison, c'est qu'ils étaient en train de voir aussi les signes miraculeux qu'il était en train d'accomplir. Ça, c'est selon le verset 5 et le verset 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits impurs étaient en train de sortir, poussant des grands cris. Alors, un esprit ne peut pousser un grand cri que lorsqu'il se sent menacé. Donc, les esprits se sentaient tellement menacés pendant que lui était en train de proclamer la bonne nouvelle. Les esprits impurs étaient en train de sortir poussant des grands cris. Des personnes possédées et beaucoup de paralytiques trouvaient là la guérison. La bonne nouvelle ici qu'il était en train d'annoncer était une bonne nouvelle, en tout cas confirmée par des signes miraculeux et des prodiges extraordinaires. La population, c'est ce que le texte nous dit, était au comble d'une joie indicible, une joie jamais expérimentée. On ne peut pas comprendre que dans une ville possédée par les forces démoniaques, en tout cas lorsque le message est annoncé, c'est juste un message qui est annoncé, il proclame le Christ, les choses changent autrement, de manière que non seulement les mauvais esprits sont en train de pousser des grands cris en sortant, les personnes possédées et même tout ce qui avait un certain nombre de maladies sont en train d'être guéries. Donc il y a une puissance qui est en train d'agir. Il y a une puissance qui agit de façon éclatante, de manière à ce que les forces des ténèbres, ou alors le diable lui-même, se sent menacé par ce message qui est en train d'être annoncé. Je voudrais dire, pour commencer, que Dieu venait de faire son entrée dans cette ville. C'est ce qu'on peut comprendre. Dieu venait de faire son entrée dans cette ville qui était plongée dans les ténèbres. Et donc le diable s'est senti fortement menacé. Là où le diable était installé, il se sent menacé. C'est autant dire que lorsque Dieu fait son entrée dans une ville, lorsque Dieu fait son entrée dans une vie, dans la vie de quelqu'un, lorsque Dieu fait son entrée dans une famille, tout change. Tout change. De manière que il n'est pas possible que Dieu ait fait son entrée et que les choses restent intactes. Cette entrée de Dieu fait que les choses changent. Et ce qui change ici, c'est cette joie que la population tout entière est en train de ressentir dans un monde où ils étaient pendant longtemps plongés dans la ténèbre. Cette joie vient de quoi? Cette joie vient du fait que la population se sent relevée du fardeau du péché qu'elle était en train de porter pendant longtemps, mais aussi des mauvais esprits qui avaient atteint une grande partie de la population. Mais cette œuvre-là, c'est une œuvre engagée par un homme que l'on appelle Philippe. Je voudrais souligner que pour délivrer une famille, pour délivrer un village, pour délivrer une ville, et même délivrer tout un pays, on n'a pas besoin d'une grande armée. Si Philippe a su faire ça, ça montre que Dieu a besoin d'un homme sincère ou d'une femme sincère, d'un homme intègre ou d'une femme intègre, dans son engagement de foi, et qui se met à la disposition de Dieu, qui peut l'utiliser lorsque il veut accomplir des choses extraordinaires. C'est-à-dire que Dieu ne fera des choses extraordinaires que par des hommes extraordinaires. Non, Dieu fera des choses peut être en mesure de faire des choses extraordinaires par des hommes ordinaires, mais qui se mettent à la disposition de Dieu et qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est ça que Philippe est. C'est ce portrait-là que Philippe nous présente, lui qui a osé proclamer le Christ parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et parce que le Christ est celui qui a remporté la victoire sur le péché, sur les diables et tous ses acolytes, sa présence en Philippe, son entrée dans cette ville de Samarie a changé les choses. Je voudrais donc dire à quelqu'un qui m'écoute que si les choses ne changent pas autour de toi, est-ce que ta foi est sincère? Est-ce que ton engagement est authentique? Est-ce que ta manière de le servir montre un engagement conséquent? Parce que Dieu est à la recherche d'un homme, d'une femme sincère et honnête, intègre, qui se laisse à sa disposition pour apporter les changements. Les diables se retrouvent dans ces milieux en train d'être désemparé, alors qu'il avait pris. En tout cas, il s'était installé dans cette ville-là. Deuxième point, comment la ville s'est retrouvée dans cette triste posture? Le texte nous dit clairement que depuis longtemps, un certain Philippe le magicien s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il faisait donc profession de magicien. C'est ce monsieur-là qu'on appelle Simon. On pourrait donc comprendre qu'il pratiquait l'astrologie, ou il pratiquait la prédiction et même la guérison. Il s'est fait passer, disent les versets 9 à 10, comme un homme très important, un grand personnage important. Le magicien, c'est qui? Le magicien, c'est un homme, ou une magicienne, c'est une femme, qui, avec des discours et des artifices, se fait passer pour quelqu'un qui possède un savoir supérieur, qui lui permet d'envoûter les gens par ses sortilèges et par la ruse. Les magiciens se donnent très souvent un pouvoir de fascination par des actes de magie qui trompent la vigilance de ses spectateurs. C'est ce que faisait Simon. Simon le magicien dit la parole de Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand, était révéré comme quelqu'un de plus grand. D'ailleurs, on disait de lui, cet homme-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la plus grande. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On le considérait donc comme quelqu'un d'une inspiration divine. Bien-aimé, il est facile de tomber sous les coups d'envoûtement parce que les œuvres du diable ne sont jamais neutres. Il faut bien les retenir. Là où ces forces des ténèbres vous touchent, elles ne vous laisseront pas intactes. C'est ainsi que je dois avertir les gens en disant qu'il suffit de visionner une vidéo, il suffit de suivre un film, il suffit d'être dans un spectacle de démonstration de la magie ou de démonstration de l'astrologie pour tomber, sans trop le savoir, sous les coups de l'ennemi. Nous sommes donc appelés à protéger nos enfants. J'invite les jeunes à savoir bien se protéger et nous-mêmes, nous devons nous protéger. Car nos yeux, je l'ai dit dans une des prédications qui est celle de Pentecôte, nos yeux sont une porte d'entrée qui influe assez fortement sur nos pensées et même notre comportement. Nos organes, ça peut être nos oreilles, ça peut être nos yeux, même certains membres de nos corps, comme le sexe, constituent des entrées, des lieux par lesquels le diable peut faire son entrée. Voilà pourquoi le vagabondage sexuel, lorsqu'on s'y habitue, on s'expose fortement à être une entrée facile, parce que par un acte sexuel, peut être une entrée facile, faciliter l'entrée pour les forces démoniaques. L'initiation à la sorcellerie aujourd'hui, ou l'initiation à l'occultisme aujourd'hui, passe par les médias. Il faut très bien le savoir. Il est donc très important de reconnaître que nous devons faire très, très, très attention. Alors, troisième et dernier point de notre message. Quand le Christ est annoncé, les comptes à rebours commencent. Lorsque survient Philippe, selon les textes que nous avons lus, Philippe qui est en train d'annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom du Christ Jésus, cette bonne nouvelle, je le répète, a été attestée par des prodiges extraordinaires et par les miracles qu'il faisait. Le fait qu'il ait annoncé l'évangile rempli du Saint-Esprit et rendu capable, habilité par le Saint-Esprit d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges extraordinaires, a fait que le territoire samaritain s'est retrouvé, qui était sous la possession démoniaque, a été secoué. On pourrait dire que l'enfer a tremblé. Ce qui arrive ici, c'est que la foule qui était à la suite de Simon le magicien va cesser de suivre Simon le magicien, et va commencer à suivre le Christ qu'annonce Philippe. Ceux qui s'attachaient à lui à la suite des événements que créait ce sortilège ont mis foi en Philippe. Pas en Philippe en tant qu'individu, mais en Philippe en tant que le canal par lequel le message de Dieu est en train d'atteindre ce peuple-là. Le règne de Dieu était venu parmi eux. La bonne nouvelle du règne de Dieu, du nom de Jésus le Christ qui était annoncé, a fait que les hommes, les femmes ont reçu le baptême. Et Simon, le magicien qui se réjouissait d'une attention de la population pour longtemps, a perdu son influence. C'est ce qui nous montre que la puissance de l'évangile est plus grande que la magie. Il a complètement, comme par un coup de magie, en tout cas, il a complètement perdu toute son influence. Donc, c'est pas un coup de magie, mais en fait, l'évangile est tellement puissant, il n'est pas comparable aux forces de la magie, que les gens ont directement changé de camp. Ils sont passés du camp des ténèbres au camp de la lumière. Ils ont été transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Les foules que Simon le magicien avait longtemps subjuguées et qui l'étonnaient par des actes de magie ont cru en Philippe. Ils ont cru au message que Philippe proclamait et ils ont changé de camp. Dit le verset 11 et le verset 12. Ce qui est dramatique, c'est que Simon s'est retrouvé seul. Il n'avait vraiment pas d'autre choix que de croire lui aussi et se faire baptiser, selon le verset 13. Il y a eu donc un très grand réveil dans la ville, que les forces des ténèbres ont été démantelées. La lumière s'est installée, elle a dissipé les ténèbres, et Simon, à qui s'attachait la population après son baptême, commença lui aussi à suivre Philippe. Il devient donc disciple de Philippe, au regard des signes et des miracles qu'il était en train de contempler. Ironie du sort. Comment celui qui était suivi va se sentir abandonné pour que lui aussi suive le même mouvement qu'était en train de suivre toute la population. Celui qui était appelé la grande puissance s'est incliné devant les grands actes de puissance qui était en train d'être accompli par Philippe, qui proclamait la venue du règne de Dieu. Quel est le résultat? Bien aimé, il y a un contraste entre Philippe et Simon, le magicien. La mission de Philippe, je l'ai beaucoup souligné, a provoqué la joie du salut. Alors que Simon, le magicien, n'a créé que la fascination. On peut dire qu'il n'a créé que l'émerveillement. Il n'a créé que l'étonnement. L'étonnement ou l'émerveillement n'est pas comparable avec la foi ou l'adhésion de foi lorsqu'on a écouté le message de l'évangile. Lorsque l'évangile n'a créé que étonnement dans notre vie, n'a créé qu'émerveillement ou fascination dans notre vie, nous ne sommes pas encore croyants. Il faut que l'évangile nous touche, qu'il laisse un impact dans notre vie et qu'il nous transforme profondément. C'est lorsque cela a eu lieu que nous pouvons dire que l'évangile est plus puissant que tout acte de fascination qui ne peut venir que de la magie. La puissance libératrice agissant à travers Philippe vient du Saint-Esprit, mais a été offerte gratuitement par le Seigneur. C'est cette puissance libératrice bien-aimée qui crée la joie du salut, d'être une nouvelle créature. Ça me rappelle une expérience que j'ai faite lorsque j'avais une vingtaine d'années. Lorsque je me suis engagé à suivre le Christ, j'avais tellement la joie de constater que le Seigneur m'aimait et qu'il a su mettre en place un plan aussi merveilleux que de me sauver par la grâce. Ça m'a procuré autant de joie, autant de liberté, autant d'épanouissement que ça m'a engagé sur une nouvelle voie pour devenir un serviteur de Dieu. Voilà ce que l'évangile peut produire dans la vie de quelqu'un. Philippe est ici donc reconnu comme authentique serviteur de Dieu, qui donne gratuitement ce qu'il a reçu lui aussi gratuitement. Par contre, c'est ça le contraste, par contre, Simon le magicien, comme les guérisseurs et les devins d'aujourd'hui, pour être en mesure, pour faire son travail, il ne pouvait que le monnayer ses pouvoirs magiques, c'est-à-dire il devait tirer un profit financier de ses pouvoirs magiques qu'il était en train d'utiliser. Les gens ne le suivaient pas pour rien. Les gens le suivaient, mais en fait, ils payaient pour ces différents actes de magie et de fascination dont il faisait la démonstration. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, chaque jour dans notre pays, où les bishops, où les archibishops trafiquent la parole de Dieu et profitent de l'ignorance de leurs adeptes pour s'enrichir. Ils les manipulent par des forces occultes, ils les manipulent par des forces qu'on pouvait appeler par le passé magique, mais en tout cas occultes aujourd'hui, et ils en tirent profit. C'est ainsi qu'il y a aujourd'hui des prières de 10 dollars, il y a des prières de 20 dollars, il y a des prières de 50 dollars, il y a des prières de 100 dollars, il y a des prières de 10 000 dollars que les gens pratiquent aujourd'hui. Autant vous donnez, autant vous recevrez aussi l'exaucement. C'est ce qu'on leur dit, mais en fait les gens ne se rendent pas compte que ceux qui les font ou ceux qui disent ces choses-là, ils sont en train de profiter de leur ignorance pour trafiquer de la prière ou de la parole de Dieu pour remplir tout simplement leur poche. Je voudrais finir en disant que ce qui est arrivé à Samarie est extraordinaire. Extraordinaire parce que le Seigneur a visité cette ville, plongée dans les ténèbres, tout comme il a le pouvoir aujourd'hui de visiter ta propre vie, quelles que soient les ténèbres qui la couvrent. Il a le pouvoir de visiter ta famille, parce qu'il y a des familles où on se pose la question si vraiment le diable ne s'est pas installé dedans, quand on voit les choses qui se passent. Dieu peut changer les choses, il peut transformer, donner un nouveau visage, même là où le diable s'est installé. Quand on voit l'image que présente notre pays aujourd'hui, très souvent on se pose la question, ce pays pourrait-il encore être libéré? Je crois que c'est ça la responsabilité qui est la nôtre, en tant qu'Église, en tant que croyants. Nous devons contribuer à la transformation de notre propre pays. Transformation de l'environnement dans lequel nous vivons. Et cela est possible par la puissance de l'Évangile. C'est que Dieu attend de nous que nous soyons sérieux avec lui. Et lui aussi sera sérieux avec lui, avec nous. Que nous soyons sincères, mais que nous restions aussi vigilants et prudents en continuant à affirmer et proclamer
que Christ est notre propre victoire. Avec lui, c'est possible de voir les changements arriver. Malheureusement, le Simon le magicien n'a pas compris ça. Lorsqu'il a vu les apôtres donner le Saint-Esprit donner le Saint-Esprit par l'imposition des mains, lui aussi a été tenté, il a été tellement impressionné qu'il a proposé l'argent pour qu'on lui donne aussi ses pouvoirs et que toute personne à qui il imposerait les mains, il recevrait le Saint-Esprit. Ça, nous le voyons au verset 19. La réaction de Pierre a été un avertissement cinglant. Si nous relisons les versets 20 à 24, a été un avertissement cinglant. Parce que Pierre lui dit que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Les paroles sont très dures, parce que Simon le magicien est rattrapé par son propre passé. Pourquoi il arrive à ça? C'est parce qu'il était habitué effectivement à obtenir des choses ou des pouvoirs surnaturels par l'argent. Il croit qu'il peut aussi utiliser l'argent pour recevoir le Saint-Esprit et le distribuer aux gens. L'avertissement de Pierre va dans le sens où ce que nous avons reçu gratuitement, nous devons le donner gratuitement. Si nous trafiquons avec la parole de Dieu, nous le paierons. Nous risquons d'être perdus avec notre argent. Et nous risquons d'être traités de personnes qui n'ayant ni héritage, ni part dans cette affaire. Parce que ce que nous avons reçu gratuitement, donnons-le gratuitement. Ne trafiquons pas avec la parole de Dieu. Ne cherchons pas à nous enrichir au moyen de cette annonce de l'Évangile. Parce que c'est un avertissement que le Seigneur nous donne et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce message. Te recommander toute personne qui l'a suivi. Te recommander chaque personne enfin qui se positionne par rapport à ce que nous avons reçu comme avertissement, mais aussi comme message qui fortifie notre foi dans la mesure où l'évangile auquel nous avons cru est tellement puissant qu'il est au-delà de la magie, au-delà de l'occultisme qui est en train de fasciner beaucoup de gens autour de nous dans notre contexte aujourd'hui. Mets-nous sous ta garde et ta protection, Seigneur, contre tous ces ravages que connaît le monde aujourd'hui. Et accorde-nous de nous laisser avertir, de nous laisser conduire sous l'éclairage de la parole de Dieu et laisser cette parole continuer à opérer, transformer nos vies, mais transformer, opérer des transformations autour de nous, comme cela s'est fait du temps de Philippe. Tu attends de nous que nous soyons des hommes et des femmes sérieux. Tu attends de nous que nous soyons des hommes et des femmes sincères. Tu attends de nous que nous soyons intègres dans notre engagement et conséquents notre engagement à te suivre pour que nous puissions être utiles à toi, être des instruments que tu utilises comme tu l'as fait pour Philippe, pour apporter des changements dans la ville de Samarie. Utilise chacun de nous là où il vit, dans sa maison, utilise chacun de nous, pourquoi pas dans cette ville, utilise chacun de nous dans ce pays. Et utilise ceux qui t'appartiennent pour qu'ils soient des instruments que tu utilises pour te faire connaître et affirmer, attester que tu es plus puissant que tout ce que le monde, dans lequel le monde est versé aujourd'hui. Nous prions que ton Esprit Saint nous y aide. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.